autour de la question d'où ça vient.
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lechowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, chers amis auditeurs, entre science et science-fiction, aujourd'hui pour faire l'anatomie du monstre le plus dérangeant de toute l'histoire du cinéma, Alien. 40 ans déjà que ce terrifiant prédateur, filmé par Ridley Scott, sorti de l'imaginaire torturé d'un génial artiste nommé Giger, a effrayé des générations de spectateurs et révolutionné le film de science-fiction. Pourquoi l'Alien nous fait-il si peur? Qu'est-ce que cet horrible monstre parasitoïde dit de nous, de nos projections, de nos angoisses? Pourquoi ce passager clandestin de futurs voyages interstellaires est-il toujours accompagné d'androïdes qui cachent terriblement bien leur jeu? Pourrait-il vraiment nous coloniser? Mais aussi, qui sait, nous montrer le chemin vers d'autres formes de vie extraterrestres? Autant de questions de science et de science-fiction qu'elles répondent avec rigueur et humour nos invités, éminents chercheurs et spécialistes de l'univers vertigineux d'Alien, le paléontologue Jean-Sébastien Steyer, Frédéric Landragin, spécialiste du dialogue homme-machine, et Christopher Robinson, qui enseigne la science-fiction à l'École Polytechnique, autour de la question « Pourquoi et comment faire de la science avec Alien ?» Bienvenue dans notre pire cauchemar.
Tu sais, elle se dirige vers toi.
Il est où ?
Au secours. Et le pire, c'est que personne ne nous entendra crier dans l'espace. Bonjour Frédéric Landragin.
Bonjour.
Bonjour Jean-Sébastien Steyer.
Bonjour.
Bonjour Christopher
Bonjour.
Robinson.
Bonjour.
Merci à tous les trois d'être en direct avec nous autour d'Alien. L'art et la science dans Alien, c'est le titre de l'excellent ouvrage que vous avez écrit à quatre mains avec l'astrophysicien Roland Lehoucq. Il vient de paraître aux éditions La Ville Brûle et dont nous avons, chers amis auditeurs, un exemplaire à vous faire gagner. Avis aux amateurs de science comme de science-fiction, car vous êtes tous les trois d'éminents chercheurs passionnés par la science-fiction. Dans l'univers vertigineux d'Alien, vous avez chacun, on pourrait dire, votre spécialité. Jean-Sébastien Steyer, vous qui êtes paléontologue, spécialiste de la faune d'avant les dinosaures, c'est l'anatomie, la morphologie du monstre, mais aussi son sanglant mode de reproduction et sa place dans l'arbre phylogénétique du vivant que vous nous faites partager. Vous vous êtes carrément, Jean-Sébastien, mis dans la peau d'un paléontologue qui tomberait sur un reste fossile d'alien et qui mènerait son enquête, c'est ça?
C'est ça, j'ai fait en fait comme si Alien... comme si je venais de découvrir Alien entre deux strates géologiques, et puis je l'ai analysé comme si j'analysais en fait un vulgaire, entre guillemets, squelette de stégocéphale ou de proto-dinosaure.
Oui, parce que vous êtes spécialiste d'avant les dinosaures, il est pire, il est plus monstrueux que tous les dinosaures et pré-dinosaures que vous avez étudiés.
Ah oui, alors on ne connaît pas tous les modes de développement des dinosaures ou d'autres formes de vie fossiles, mais Alien bat quand même tous les records de biodiversité horrifique, on va dire.
Ah, biodiversité horrifique, on va y revenir. Frédéric Landragin, vous êtes directeur de recherche au CNRS. Vos recherches en linguistique, en informatique, portent sur le traitement automatique des langues et sur le dialogue homme-machine. Ce sont donc les machines parlantes, les androïdes d'Alien qui ont votre préférence et qui voleraient presque, selon vous, la vedette à Alien. Ce sont eux, alors maman, et puis surtout Ash et les David, qui sont finalement les personnages peut-être principaux d'Alien, ceux qu'on voit le plus.
Alors, ils volent peut-être pas la vedette aux monstres, mais ce qui est sûr, c'est qu'on les retrouve tout au long de la saga, et ils ont un rôle narratif très fort, en particulier les androïdes avec Ash dans le premier volet.
Dans le premier volet, donc, il y a donc Ash qui est peut-être votre préféré. Est-ce qu'on est quand même très loin de parvenir à fabriquer, vous qui travaillez dans le dialogue homme-machine, des androïdes pareils ou des machines parlantes pareilles?
Oui, on en est très loin, à la fois au niveau de la robotique, c'est-à-dire de tous les gestes que Ash est capable de produire, mais aussi au niveau de la compréhension du langage humain, parce que Ash, il maîtrise l'anglais, donc, aussi bien en réception qu'en production. Et en plus, il fait preuve parfois d'ironie, d'implicite, ce qui est très difficile à faire pour une machine.
Donc là, on est dans la science-fiction. Alors, quant à vous, Christopher Robinson, comment dire, votre cas est peut-être encore plus grave que celui de mes autres invités. Vous êtes un spécialiste de science-fiction. Lovecraft et Giger, le génial créateur d'Alien, n'ont presque pas de secret pour vous. Vous êtes maître de conférence à l'école polytechnique où vous enseignez donc la science-fiction aux futurs polytechniciens, aux polytechniciens.
Oui.
On va en parler. Mais comment, en quelques mots, et puis en images, on est à la radio, comment décrire le fantastique univers terrifiant, torturé, érotique, voire pornographique et surtout visionnaire du génial père d'Alien, l'artiste H.R. Giger?
Oui, c'est un monde hybride. C'est un monde, un univers qui est peuplé des créatures qui mélangent ce qu'on appelle biomécanique, donc ça veut dire la biologie, la mécanique, mais aussi qui mélangent les sexes. C'est-à-dire que parfois, on ne sait pas si on est devant une créature qui est mâle ou femelle, les deux en même temps, qui mélange l'érotisme avec la violence, avec le sadomasochisme, avec la guerre. Il y a des armes partout, donc parfois même les anatomies sont remplacées par des organes qui sont des armes. Donc c'est un monde très imprégné de tout ce qui est sombre, gris parfois littéralement, parce que c'est une œuvre d'art qui est monochromatique, mais en même temps qui est très gracieux, très beau, raffiné dans les dessins, très réaliste dans les dessins, et je crois que c'est ça qui rend si crédible et si terrifiant ces mélanges qui sont autrement impossibles.
Alors moi, c'est grâce à vous que j'ai découvert ce génial artiste Giger, entre émerveillement et horreur, autour de toutes les questions ouvertes par la saga Alien. On commence par s'intéresser à l'anatomie du monstre avec vous, Jean-Sébastien Steyer, tel qu'on le découvre dans le premier Alien, Alien, le huitième passager, extrait.
Elle est arrivée?
Oui.
Nous sommes décontaminés, laissez-moi entrer.
Qu'est-ce qui est arrivé à Kane?
Quelque chose s'est accroché à lui, il faut l'emmener immédiatement à l'infirmerie.
Quel genre de choses? Donne une définition claire.
C'est un organisme. Ouvre le sas.
Attends une minute. Si nous le laissons entrer, l'appareil peut être infecté. Tu connais la procédure de quarantaine.
24 heures de décontamination.
Je vais faire une incision ici.
Essayer d'enlever une des tentacules de son cou.
Tu vas faire quoi?
La tentacule. Je vais essayer de l'enlever de son cou. Il a que cette patte-là.
Oh. Et qu'est-ce qu'il a dans la gorge?
Je pense que ça l'alimente en oxygène.
Ça le paralyse entièrement, ça le met dans le coma.
Mais ça le garde quand même en vie.
Mais qu'est-ce que c'est?
Jamais j'ai vu un truc comme ça. Sinon de l'acide moléculaire.
Il doit avoir ça à la place du sang.
C'est un mécanisme de défense formidable. On n'ose pas les tuer.
Mais qu'est-ce que c'est que cet organisme? Qu'est-ce que c'est que ce monstre, Jean-Sébastien Steyer?
Alors, c'est un monstre terrible parce que polymorphe. Tout commence par un œuf bizarroïde qui s'ouvre un petit peu comme les pétales d'ailleurs d'une plante, d'une fleur. Et puis ensuite, vous avez un facehugger, c'est-à-dire un autre stade de développement qui vous agrippe le visage, qui vous plonge dans le coma, on l'a bien entendu. Et là, vous êtes au stade 2 de l'infection, c'est-à-dire qu'à partir de cet ectoparasitoïde... Alors, la petite distinction entre
oui,
parasite...
Oui, c'est un parasitoïde, c'est pire qu'un parasite. Hein.
C'est ça, parce qu'à la fin, vous mourrez, en fait. L'hôte meurt à la fin du cycle de développement du parasite, qui devient un parasitoïde, en fait. C'est la petite subtilité au niveau du vocabulaire. Mais on est dans un cas d'ectoparasitisme, et puis ensuite... On a à l'intérieur même du corps de l'autre une sorte de mini-alien qui va là exploser la poitrine, le fameux chest buster, donc l'exploseur de poitrail qui va grandir et être déjà un petit alien en miniature qui, par ce qu'on appelle allométrie de croissance, va devenir le monstre ultime.
Donc le monstre, déjà rien que dans son développement, il est parasitoïde. Dans la nature, on en rencontre des parasitoïdes. Est-ce que, justement, il y a d'autres bestioles dans la nature qui dont Alien s'est peut-être inspiré, enfin, qui sont assez proches?
Oui, on retrouve en fait dans le développement d'Alien beaucoup de caractères observés chez les insectes, notamment, ou chez certains vers ou certains schistosomes qui ont besoin en fait d'autres organismes pour se reproduire, pour se développer en fait. Il y a beaucoup de parasites ou de parasitoïdes en fait dans la nature, comme il y a beaucoup d'organismes symbiotiques. Hein, c'est pas forcément
La mort de l'hôte.
Voilà. Et tout ça participe à l'évolution de la vie. Et on retrouve dans Alien déjà un développement de type insecte. Ensuite, quand il est au stade ultime, c'est-à-dire adulte, là, il présente une mosaïque de caractères empruntés. Alors toujours un petit peu chez les insectes, on a une tête un peu bizarroïde qui évoque un peu aussi une chrysalide. Mm-hmm. Mais en même temps, on a des bras, on a des jambes, un petit peu comme nous, humains. D'ailleurs, Alien, Christopher va en reparler sans doute, il a quelque chose de féminin, effectivement, d'humain, donc d'humanoïde. Mais il a une queue pointue, un petit peu comme les scorpions, mais on observe en fait des sortes de segments visibles qui évoquent un peu les vertèbres. Donc on ne sait pas trop où le placer dans l'arbre du vivant. En fait, c'est un casse-tête systématique, c'est-à-dire on ne peut pas le classer.
Au fond, ni mâle, ni femelle, ni insecte, ni vertébré, ni... Enfin, c'est ça.
C'est ça, c'est un petit peu tout à la fois, mais c'est harmonieux dans le sens où c'est très réaliste. De par le développement, de par le mode de chasse, le mode de prédation, de par cette espèce de mâchoire aussi, cette double mâchoire qui va optimiser en fait ce qu'on appelle la prise alimentaire avec beaucoup de bave pour vous ingurgiter plus facilement. En fait, Alien concentre à lui seul tous les traits entre guillemets dégueulasses que l'on observe nous dans la biodiversité actuelle et fossile aussi.
Ah oui, c'est ça. En fait, il concentre tout avec son mode de reproduction particulièrement sanglant. Enfin là, on est vraiment dans le gore, quoi, complètement dans le gore.
Oui, d'ailleurs, c'est une œuvre en fait phare, une œuvre culte dans la science-fiction horrifique du coup. Et c'est très effectivement, il y a beaucoup d'hémoglobine.
Il y a beaucoup d'hémoglobine parce que c'est pas lui, enfin son sang à lui, c'est compliqué.
Alors,
hein, là aussi.
Son sang aussi est assez extraordinaire dans le sens où c'est un sang acide. On parle justement de fluide moléculaire très acide. Ça, c'est assez unique dans le vivant. En tout cas, on ne connaît pas encore de sang très acide dans la nature actuelle. On a, nous, des sucs gastriques avec un pH proche de 2, qui sont quand même des fluides vitaux nécessaires à la digestion, qui sont très acides. Mais là, le sang, c'est un fluide en plus vital, très acide, super acide, capable de faire fondre en fait le métal des vaisseaux spatiaux. Donc ça renforce le côté anxiogène. Et puis il y a aussi cette tête démesurée, très allongée. Il n'y a pas d'yeux dans les premières versions, en tout cas d'Alien.
C'est une drôle de tête, hein. Pourrait faire penser à un sexe aussi.
Oui, c'est une tête phallique avec finalement des doigts assez fins, allongés, assez féminins. Donc on est dans le mélange des sexes, dans le mélange des genres, dans le mélange des familles, dans le mélange de la biodiversité, en fait.
Vous dites que c'est un hyper prédateur, ou peut-être l'ultime, le plus ultime des super prédateurs, c'est ça, hein, dans votre classification des espèces, Jean-Sébastien Terre. Je rappelle que vous êtes paléontologue au départ, avant d'être féru de science-fiction.
Oui. Et en fait, ce qui est intéressant, effectivement, c'est que c'est une espèce prédatrice avec un grand P, parce que elle va élaborer des stratégies de chasse. Elle n'a pas d'yeux, elle utilise des sens qui nous échappent pour mieux nous attraper, hein, on le voit bien dans le film. Et on pense d'ailleurs que dans cette tête allongée, alors il y a une sorte de cerveau ou de centre neuromoteur qui permet justement une certaine intelligence animale pour élaborer des stratégies de chasse, mais aussi peut-être un sonar, comme ont certaines espèces bien réelles, le dauphin par exemple, ou les chauves-souris, qui utilisent les sons, les ultrasons plus précisément, pour pouvoir se déplacer et effectuer une cartographie en fait sonore de leur environnement proche.
Est-ce que vous pensez que c'est pour tous ces caractères-là, cette espèce de mélange, comme vous dites, d'hyper-prédateurs, de parasitoïdes, est-ce que c'est pour ça qu'il nous effraie tant, que ça marche tant, et que c'est aussi horrifique que ça? Parce qu'on ne le voit pas tellement, mais c'est complètement horrifique, Alien.
Oui, alors, il y a aussi justement dans le cinéma, ce que l'on ne voit pas est d'autant plus effrayant. Mmh. En fait, donc, les cinéastes, très rapidement, on jouait sur ce côté-là horrifique au niveau cinématographique. Mais en termes de, on va dire, de biologie de l'évolution, effectivement, on a tous les critères, on a des griffes, on a des dards, on a des armes, justement, naturelles, biomécaniques, que l'on retrouve dans plein d'espèces, en général, prédatrices.
Christopher, Jean-Sébastien Seyer disait à l'instant qu'Alien a des caractères féminins, masculins, qu'il rassemble en fait le pire de nos cauchemars. Comment est-ce qu'il est né dans l'imaginaire de Giger? Est-ce que c'est le prolongement de bestioles sur lesquelles il travaillait? Est-ce que c'est, parce qu'il a été vraiment connu pour oui. Alien, alors qu'il a fait une œuvre bien plus énorme que celle-là.
Oui, en fait... Lorsqu'il a travaillé sur Alien, Giger a recréé son univers. Il a déjà créé, par exemple, les têtes depuis des très longues années, avec un très allongé, comme ça, une forme phallique, mais en d'autres formes aussi. Et en fait, l'origine, c'était des dessins des chevelures des femmes.
Donc, les origines. Qui faisait cette tête oui. allongée. Et finalement, pas un sexe d'homme, ce qu'on pourrait croire en regardant la tête d'Alien. Hein.
Et en fait, ça continue d'évoluer, de se mélanger avec d'autres motifs qui sont très récurrents. Par exemple, les couronnes des pharaons. Donc, on trouve plein des têtes en des formes très étranges et qui ressemblent à ce qu'on voit dans les statues de l'Égypte ancienne. Et on se demande, même si Giger n'avait pas travaillé sur le film de James Cameron où on voit la reine, on se demande si sa crête n'était pas influencée justement par ces têtes des femmes, des déesses, des démons dans l'œuvre de Giger avec ces énormes têtes comme ça. Et même le fait d'avoir cette... Giger décrit ce qui sort de la bouche pas comme une deuxième mâchoire, mais comme une langue. Et ça aussi, on voit des autres images avec des langues de types différents qui sortent. Et c'est pareil pour tous les stades, en fait. Par exemple, le facehugger, ça
donc
vient...
Donc celui qui s'agrippe au
oui,
visage.
Qui étreigne le visage, oui.
C'est ça.
Et ça a des origines dans les... En fait, les masques à gaz. Donc, Giger était obsédé par la guerre. Et donc, le masque à gaz, on associe bien sûr avec la Première Guerre mondiale, avec les produits chimiques. Mais Giger associait ça avec la peur d'une guerre nucléaire. Et donc, parmi ces premières images biomécaniques, on voit les formes des corps qui ont été déformés par le rayonnement ionisante, et qu'ils portent des masques à gaz qui ont fait fusionner avec
leur visage. Donc en fait, oui. on se rend compte que un des génies de Giger, c'est quand même de s'inspirer à la fois de figures mythiques, de oui. démons, et aussi de dangers immédiats oui. Qui fonctionnent toujours pour nous aujourd'hui.
Oui, oui. Et en fait, il y a ça, il y a sans cesse un déplacement d'image. Donc par exemple, dans notre image, le tube de masque à gaz devient les cordons ombilicales qui s'insèrent dans la colonne vertébrale, etc., etc. Et ça, c'est une évolution sans cesse qui donc ça a aussi influencé, par exemple, le pilote dans l'épave. Lui aussi, on ne sait pas si c'est un trombe, on ne sait pas si c'est un masque à gaz, on ne sait pas si c'est un facehugger, on ne sait pas si, par exemple, c'est le postiche d'un pharaon, parce que l'image qui a influencé directement les pilotes porte un postiche comme un pharaon.
Autour de la question du pilote, d'Alien et de l'imaginaire débridé de son créateur H.R. Giger, assez sexe, drugs and rock'n'roll
oui,
quand
exact.
Même, on y reviendra, car Giger a aussi dessiné les pochettes de nombreux stars du rock, comme Blondie, Debbie Harry, qu'on écoute dans un de ses premiers tubes très science-fictionnesque, Rapture, Blondie sur RFI.
Autour de la question. I'm
Rapture, Blondie sur RFI, science ou science-fiction autour de toutes les questions soulevées par la saga Alien, en compagnie de nos invités, le paléontologue Jean-Sébastien Steyer, Frédéric Landragin, spécialiste du langage homme-machine, et Christopher Robinson, spécialiste de science-fiction et de Giger, le génial père d'Alien qui publie donc à quatre avec l'astrophysicien Roland Lehoucq, L'art et la science dans Alien, ouvrage où nous avons un exemplaire à vous offrir, chers amis auditeurs et internautes. Il vous suffit de nous le demander par mail ou sur notre page Facebook. Vous pourrez ainsi découvrir, après l'anatomie du monstre sanglant, les incroyables et assez terrifiants androïdes d'Alien. Alors c'est vous qui vous êtes chargé de ce chapitre, Frédéric Landragin, de faire la généalogie de tous ces androïdes d'Alien, de maman à David, en passant bien sûr par H, peut-être la figure la plus terrifiante, presque plus terrifiante encore qu'Alien, car c'est avec H qu'on parle, c'est avec lui qu'on a affaire dans l'espace, H qui cache si bien son jeu. Extrait d'Alien, le huitième passager.
H, as-tu ouvert cette porte? Laisse-moi passer. Laisse-moi.
Oh, Seigneur. C'est un robot. H est une saloperie de robot. Oh, mon Dieu.
Pourquoi la compagnie nous a envoyé une saloperie de robot?
Il voulait qu'on ramène l'étranger pour les services de la défense. H était chargé de le protéger. Parker essaie de le rebrancher.
H, Frédéric Landragin. Alors, je ne sais pas s'il faut le rebrancher ou pas, mais qu'est-ce que c'est que cette saloperie de robot?
Oui, donc c'est un androïde. Alors pendant toute une partie du film, on le prend comme un humain, comme un membre de l'équipage, comme les autres. C'est même lui qui est le délégué scientifique de l'équipage, ce qui n'est pas anodin.
Il faut toujours se méfier des délégués scientifiques.
Voilà. Hein. Et donc arrive cette scène où il s'oppose à Ripley, s'ensuit une bataille et il est décapité, quasiment en tout cas. Et alors effectivement, je considère que c'est un personnage assez effrayant, rien que par cette scène, parce que quasiment pour la première fois à l'écran, sur grand écran, donc en 79, on voit un robot qui n'est pas tout fait de métal bien propre et bien brillant, mais qui a une multitude de tuyaux, avec des fluides qui dégoulinent dans tous les sens, qui sont en plus de couleurs un peu laiteuses. Enfin, il y a un mélange qui rappelle un petit peu le biomécanique, hein, dont on a parlé plus tôt, et qui fait que la vision même de H est dérangeante.
Très, très dérangeante, très effrayante, effectivement, et peut-être même pas plus effrayante qu'Alien, mais tout ça, ça fait partie de quelque chose de visqueux, de dégoûtant, et qui nous touche au plus profond. Tout à l'heure, Christopher Robinson disait qu'il s'inspirait à la fois peut-être de déesses, de démons, de dieux égyptiens, de masques à gaz, mais il fait appel en fait à toutes nos frayeurs les plus profondes finalement.
Oui, et d'ailleurs, pas uniquement dans la créature et dans H, on le voit aussi avec le vaisseau, parce que le vaisseau, il suinte. Il y a plein d'endroits, il y a plein de cales ou d'autres endroits où il y a de l'eau qui coule. Enfin, on ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas trop où elle va. Donc, ça, c'est effectivement, tout le film joue avec ça. Alors, dans H, c'est particulièrement impressionnant, parce qu'on pensait que c'était un humain, et d'un coup, on voit quelque chose qui est hybride, hein, je reprends le mot, et qui donc est une machine, mais en plus une machine qui n'a strictement rien à voir avec celle à laquelle les membres de l'équipage sont habitués, à savoir maman. Parce que,
oui, ça c'est la machine qui pilote le vaisseau, qui voilà. Dirige tout.
C'est la machine qui gère les équipements, qui gère les périodes d'hibernation des membres de l'équipage, qui gère les ouvertures et fermetures de sas, enfin des choses qu'on peut imaginer assez peut-être pas simple, mais en tout cas rationnelles, voilà, qui font l'objet de programmes. On imagine, il y a une étape 1, puis 2, puis 3, on suit les étapes, et puis voilà, c'est quelque chose d'assez carré, quoi. Et d'ailleurs, maman, son interaction avec elle est est aussi assez carré, parce qu'il faut que le capitaine Dallas entre dans une pièce spéciale avec des petits écrans et puis des lumières qui clignotent de partout, qui s'installe à une espèce de poste avec juste un petit écran, un clavier, et qui tape ses requêtes à maman sur ce clavier. Donc c'est assez old school. Hein,
oui, c'est ça, et on sait très bien, l'ordinateur, enfin la machine parlante est à sa place. Là,
donc en plus, elle parle pas, c'est la communication se fait par la langue, en anglais, mais c'est à l'écrit. C'est pas à l'oral, c'est à l'écrit. Dans le fond, ça change pas grand-chose, parce que ça veut dire quand même que maman a des capacités de compréhension du langage qui sont assez poussées.
Mais on la tient à distance, enfin, voilà. C'est ça. Hein.
Mais ça reste un super ordinateur très neutre, très inaccessible. Contrairement à Ash, qui lui est donc un membre de l'équipage avec qui on discute de tout et de rien, avec qui on mange, puisqu'il y a une scène de déjeuner ou dîner, enfin, où il parle, voilà.
C'est très effrayant, parce qu'au fond, Alien colonise véritablement ses proies, parce que c'est un parasitoïde, mais tous ces androïdes, et Ash notamment, ils colonisent le vaisseau sans qu'on s'en rende compte. Et ils pourraient nous coloniser.
Alors, Ash, il a son double jeu, hein. En tant que responsable scientifique du vaisseau, c'est lui normalement le premier à savoir qu'il ne faut pas faire rentrer un organisme autre. Et pourtant, c'est lui qui le fait parce qu'il sait qu'il a une mission secrète de la société qu'il emploie, enfin, qu'il a construit, qui est justement de ramener Alien. Bon, on peut voir Alien, le film, comme une espèce d'écho au Kubrick de 2001, Odyssée, dans l'espace, où on avait au contraire, dans le vaisseau, un ordinateur et un seul, qui était Hal, et qui, lui, joue un petit peu tous les rôles à la fois, c'est-à-dire à la fois le rôle de super-ordinateur qui gère les équipements du vaisseau spatial, qui ouvre les SAS et compagnie, et le rôle plus social de membre de l'équipage à part entière, ou presque, parce que il distrait les humains que sont Dave Bowman et Frank Poole, il joue aux échecs avec eux, et ainsi de suite. Et du fait que c'est le même ordinateur, ben, il y a un problème, il devient un peu fou, quoi. Il pète un câble, parce qu'il gère à la fois ça et sa mission secrète qu'il ne doit pas dire à Dave et à Frank. Là, dans Alien, comme on a deux caractères bien séparés, on n'assiste pas à ce pétage de plomb. Ça ne, voilà, ça ne,
donc
ça
finalement,
n'a pas
c'est
lieu.
Peut-être la leçon de HAL de 2001 l'Odyssée de l'espace, c'est que du coup, les deux androïdes sont complètement séparés. Il y en a un qui est vraiment qui a figure humaine d'ailleurs, voilà, qui est vraiment en lien avec les humains, et l'autre qui reste une machine vers lequel on pourrait se diriger, vous qui travaillez quand même dans cette interface homme-machine, sur les questions de langue, comment faire parler les ordinateurs. Est-ce que un H, qui est quand même notre terreur absolue, hein, qui est un robot caché parmi nous et qui comprenne pour un humain, est-ce qu'un H est envisageable? Est-ce que c'est de l'art? Évidemment, c'est de la science-fiction, mais est-ce que ça pourrait être de la science?
Alors, les chercheurs n'essayent pas de reproduire H, de même qu'ils n'essayent pas de faire un HAL, parce que HAL aussi fait peur au final. Hein.
Oui, dans 2001, l'Odyssée de l'espace, absolument. Oui.
En gros, on fait des avancées dans les deux directions, c'est-à-dire dans celle des superordinateurs qui gèrent de mieux en mieux des tâches de plus en plus complexes et qui restent désincarnés, comme les mamans. Et on fait aussi des recherches pour faire des robots de compagnie qui aient une forme humanoïde. Alors certes, très très simple. Je ne sais pas si vous avez en tête l'apparence de Nao ou Pepper.
Oui, voilà. On a reçu Nao ici même, pas encore Pepper, mais c'est vrai qu'on se laisse prendre comme un petit poupon, comme une petite poupée, comme un automate. On ne croit pas que c'est un être humain, mais on se laisse prendre par sa bouille et ses yeux tout ronds.
Oui, parce qu'il est fait pour ça, en fait. Il est fait pour vraiment avoir une interaction sociale avec les gens qui sont autour. Par contre, il a des capacités de compréhension et de production du langage qui sont très, très... qui n'ont en tout cas rien à voir avec celles de H.
Non, clairement, clairement, qui sont très limités et très programmés, ce qu'on a envie qu'ils nous disent.
Oui, d'une manière assez caricaturale, la plupart des choses qu'il arrive à faire, c'est parce que c'est pré-enregistré. Après, il y a un peu d'intelligence, mais voilà, c'est pas...
Alors que H est capable d'improviser, enfin, de réagir exactement comme un humain. On pense au test de Turing ou à la machine de Turing. Lui, il leurre tous les humains qui sont en face de lui. C'est ça qui est effrayant. C'est ça qui est le plus effrayant, peut-être.
Alors, effectivement, bon, ça, c'est un premier pas. Il y a quelque chose qui est encore, pour moi, encore plus effrayant, c'est que H est très, très fort pour manipuler, pour trahir et pour gérer l'implicite, le sous-entendu, tout ce qui n'est pas très explicite dans la communication et donc qui peut amener à des interprétations variées. Et ça, il est très très fort. Et dans la scène où il meurt, donc un petit peu après le passage qu'on a écouté, il finit avec une phrase qui est « Vous avez ma sympathie ». Et puis il finit avec un petit sourire narquois. Et ça, je trouve ça effrayant.
Très, très dérangeant. Toutes les questions soulevées par la saga Alien, en particulier dans le tout premier film, il y a bien sûr la patte à chaque fois de Giger dont on a parlé, hein, qui est cet artiste qui a pensé, imaginé Alien. C'est un artiste hors pair devenu célèbre grâce à Alien. Il a même son musée à Gruyère en Suisse. Plusieurs expositions lui ont rendu hommage. À Strasbourg s'ouvre actuellement, dans le cadre du Festival du film fantastique, une exposition consacrée à son travail à la galerie Aedan, intitulée « Giger Inside and Beyond the Eighth Passenger », donc à l'intérieur et au-delà d'Alien, le huitième passager. Je vous propose d'écouter le commissaire de l'expo Giger, Marc Witzig, joint par téléphone par Jérémy Bazar.
Ce mélange entre biologie, mécanique et la vie me fait faire une telle raffinesse que ça a l'air complètement réaliste. D'une certaine manière, on peut dire que Giger, il arrive comme à puiser dans l'inconscient collectif. Il pouvait comme sentir les préoccupations des gens et ce qui était spécial, il arrivait à les visualiser d'une manière très esthétique et ça lui a rendu très populaire. Il y a 50 ans, on voyait Giger plutôt comme sort de fou. Et maintenant, on le voit plutôt comme visionnaire.
On l'a considéré comme fou. Il était très, on l'a dit, hein, sex and drugs and rock and roll, très époque psychédélique aussi. Oui. Mais c'est un vrai visionnaire, Christopher Romanson, cet artiste Giger qui a créé Alien, mais aussi les androïdes dont on vient de parler avec Frédéric Landragin.
Oui, je crois que les visionnaires dans plusieurs sens. Premièrement, avec tout l'intérêt aujourd'hui dans le transhumanisme, l'idée de pouvoir augmenter tout ce qui est les fonctionnements biologiques et voir prolonger la vie. On voit par exemple ceux qui semblent être des cadavres réanimés dans ses œuvres. Il y a un célèbre un tableau qui s'appelait Le Sortilège, où on voit une femme crucifiée et on a l'impression qu'elle était en fait réanimée par des moyens artificiels. Une autre chose...
Il se posait la question, vous pensez, du transhumanisme ou c'est quelque chose qui traversait ?
Non, je ne crois pas. Hein.
Non, c'est vraiment un artiste...
Oui. En fait, Giger... considérer son œuvre comme plutôt fantastique, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas d'accord sur qu'est-ce que ça signifie, mais en général, le fantastique c'est un mélange entre la magie et la science, le naturel et le surnaturel. Et donc en Giger, on a ce mélange. Mais ce qui permet d'être utilisé dans la science-fiction si bien, c'est justement la façon dont visuellement il présente, comme avait dit Jean-Sébastien, ces hybrides extrêmes qui rappellent beaucoup des espèces très différentes, qui rappellent le masculin et le féminin, avec une certaine harmonie, mais en même temps une certaine tension. On n'oublie jamais la tension entre les deux.
Oui, ils sont tous quand même féroces, il y a une grande tension. Oui. Et puis dans cette hybridation, il y a aussi l'hybridation entre du vivant et du non-vivant.
Exact. Enfin,
c'est ça qu'on retrouve aussi, c'est tout le temps du l'hybridation, du mélange. Et on a l'impression aussi, je ne sais pas comment il arrivait à puiser aussi dans notre imaginaire à ce point-là et dans nos peurs. Parce que Alien, fête ses 40 ans, mais finalement aujourd'hui on peut se retrouver dans les peurs évoqué par Alien, que ce soit dans les androïdes, dans ce côté gluant à l'intérieur, enfin tout ça nous fait toujours aussi peur finalement.
Oui, mais une autre chose qui est très dérangeant, qui ne fait non seulement peur avec Giger, mais justement, je vais rebondir sur le titre de chanson de Debbie Harry, Rapture. Il est vrai qu'il y a beaucoup des images très torturées, mais il y a aussi des images de rapture. Et donc, parfois, on est vraiment entre
le douleur, vol, de, d'enlèvement, de viol.
Exactement. De, ouais. Mais de rapture, c'est-à-dire d'extase. Et
ah,
sur
oui.
les visages, si on regarde parfois les visages de ces figures féminines, on ne sait pas qu'est-ce que ça s'exprime. C'est très difficile de déchiffrer. Et on voit parfois, par exemple, que des images des femmes qui sont immobilisées, comme des parties d'une machine. Et là, ça me fait penser, par exemple, un petit peu à l'agriculture industrielle, sauf que là, ça, c'est la reproduction industrielle. Je pense aussi à les images de femmes où on voit que l'utérus devient un magasin d'ammunition. On voit les fœtus en forme de balle, d'ailleurs avec un visage qui ressemble beaucoup à Giger lui-même, l'artiste lui-même. Et donc, tout ça anticipe, par exemple, non seulement les formes des créatures dans le film, mais aussi le fonctionnement. C'est-à-dire que lorsque le chestburster, ce qui explose du poitrine...
Ce qui explose quand le oui. montre explose dans la
oui.
poitrine.
Mmh. Ben, on voit plein des images avec des femmes qui, à nouveau, soit le canal de naissance est une fusil, est un canon, etc. Et on voit ce fœtus qui explose du corps. Donc je crois que c'est vraiment ces hybridisations, ces mélanges entre l'érotique, entre le thanatos et l'éros, la vie et la mort, la naissance et la mort, etc., qui reste très dérangeant.
Jean-Sébastien Steyer.
Oui, on est vraiment entre la vie et la mort, et ça se voit dans la biologie même, hein, mis à part le fait, bien sûr, que Giger était aussi un artiste finalement naturaliste aussi, parce que toutes ces créations biologiques sont très précises, elles tiennent la route au niveau des proportions anatomiques, au niveau de la biomécanique, au sens, en fait, non pas esthétique, mais scientifique. Hein, on peut comparer, d'ailleurs, biomécanique scientifique, qui est l'étude, finalement, des mouvements, de la locomotion à partir de squelettes ou d'autres éléments architecturaux en fait d'organismes.
Ça fonctionne très bien dans les créatures de Giger.
Ça marche super bien. Et aussi, en fait, on retrouve cette espèce d'état entre la vie et la mort, même chez Alien, qui est capable de se mettre en stase, c'est-à-dire l'œuf, le premier stade de développement, est capable de rester des années à l'état justement d'œuf en attendant qu'un humanoïde passe par là pour ensuite éjecter le facehugger, la figure, c'est le cas de le dire, et poursuivre en fait son œuvre de destruction massive.
Ah, oh, sacré parasitoïde alien né de l'imaginaire de cet artiste, on l'a dit, Sex, Drugs and Rock'n'Roll, nommé Giger, qui a aussi illustré de nombreuses pochettes d'albums. Alors certaines ont même fait scandale, on ne va pas y revenir, on n'a peut-être pas le temps, mais d'autres sont célèbres, comme celle de l'album d'Emerson, Lake and Palmer. Mais oui, souvenez-vous, Brain Salad Surgery, qu'on écoute tout de suite sur RFI.
Autour de la question.
Emerson, Lake and Palmer sur RFI. La pochette de cet album Brain Salad Surgery a été dessinée par H.R. Giger, le génial créateur d'Alien. C'est autour de ce monstre le plus effrayant de toute l'histoire du cinéma que nous nous interrogeons entre science et science-fiction avec nos invités, le paléontologue Jean-Sébastien Steyer, le spécialiste du dialogue homme-machine Frédéric Landragin et le spécialiste de science-fiction qui l'enseigne même à l'école polytechnique, Christopher Robinson. Tous trois viennent de publier L'art et la science dans Alien, ouvrage où nous avons un exemplaire à vous faire gagner. Chers amis auditeurs, car la science-fiction est une grande source d'inspiration pour de nombreux chercheurs, futurs polytechniciens ou astrophysiciens, comme Pierre Léna, le fondateur de la main à la pâte, avec le regretté prix Nobel Georges Charpak, concepteur Pierre Léna du Very Large Télescope, qui lui aussi s'est nourri de science-fiction. On l'écoute.
Ce qui est très fort en science-fiction, c'est qu'on lâche un petit peu la bride à l'imagination. Pas complètement, parce que c'est pas totalement farfelu, et il faut qu'il y ait une cohérence interne, hein, mais on la lâche un petit peu, et au fond, c'est aussi comme ça qu'on travaille dans un laboratoire. Hein. Il faut rêver, hein, il faut rêver une réalité. Einstein disait beaucoup ça, il disait « mes grandes idées, je les ai eues en sortant d'un rêve ». Donc l'imagination est fondamentale, et les mathématiciens disent la même chose d'ailleurs. Jean-Pierre Cahan, qui est mort récemment, grand mathématicien de l'Académie, nous répétait très souvent ça. N'oubliez pas de valoriser l'imagination des enfants. Donc la science-fiction, elle débride un peu les conditions aux limites, tant mieux, puis elle explore des possibles dont certains, peut-être, se révéleront des réels.
Bel éclairage de Pierre Léna qui nous encourage à nous intéresser à la science-fiction que vous nous faites passer, cette fois-ci à travers Alien et à travers ce créateur incroyable Giger. Mais quand même, les rêves de Giger, les rêves d'Alien, les rêves de ces androïdes, ils sont bien sombres et ils cachent tout de même, enfin je ne sais pas s'ils les cachent, mais ils montrent aussi des angoisses aujourd'hui qui sont extrêmement sombres parce que Alien, Christopher Robinson, c'est pas que un monstre.
Non, c'est aussi une arme. Et on soupçonne dès le premier film que c'était conçu comme une arme. On est pris avec le dernier volet de Ridley Scott que c'était effectivement le cas. Mais même dès les débuts, ils remplissent le rôle d'un un organisme qui cherche la destruction de la vie massive.
C'est ça qui fait peur. Il n'y a pas que ça qui fait peur chez Alien comme chez les androïdes. C'est le huitième passager, hein, pour reprendre le titre du c'est-à-dire ce sont des intrus en fait, tous c'est pareil, on a peur, on fait plus confiance à personne, et ça aussi ça fait partie de nos angoisses à nous aujourd'hui, Jean-Sébastien Steyer.
Oui tout à fait, dans le sens où effectivement Alien a été créé en fait dans la saga bien sûr pour détruire notre espèce, et donc on a affaire à une sorte de virus macroscopique, un organisme en fait super prédateur qu'on ne voit à peine hein, d'ailleurs dans le premier film, et on peut même pas faire confiance à ses semblables parce qu'en plus il y a des robots infiltrés, donc il y a des infiltrés de partout, aussi bien aliens qu'on voit très peu ou alors trop tard, et puis c'est vraiment anxiogène en fait.
C'est un concentré, Frédéric Landragin, de toutes nos angoisses finalement, et avec tous ces androïdes et ces machines parlantes et ces robots à figure humaine qui cachent bien leur jeu, c'est un concentré de nos angoisses.
H en particulier, je pense, oui. Et là où il fait également très peur, c'est quand on le voit se battre avec Ripley. Il n'a pas d'arme, il n'a pas de pistolet, et il prend un magazine, il l'enroule et il essaye d'étouffer avec ce magazine son ennemi. Et déjà, bon, c'est une façon un peu particulière de tuer,
oui.
Mais surtout, ça montre à quel point H est capable, alors qu'il se fait passer pour un humain et tout ça, de trouver à tout moment la façon la plus efficace d'atteindre son objectif. Ça, c'est terrifiant.
C'est terrifiant. Pourquoi ça inspire tant aussi les chercheurs que vous êtes? C'est par ce côté terriblement angoissant, c'est par ce côté terriblement juste aussi, ou est-ce que c'est dans ce côté visionnaire, où finalement, entre les armes, les virus, l'intrus, nos peurs, on a l'impression qu'Alien, quand même, est un vrai concentré de nos angoisses. Christopher.
Oui, et non seulement de nos angoisses, mais à nouveau, il y a toujours un côté un peu positif, au moins de point de vue de Giger, par exemple. Il compare souvent à Ripley et Alien à La Belle et la Bête. Il dit, mais c'est pas sûr lequel est la belle. Donc, pour lui, il y a quelque chose de très gracieux, très magnifique dans cette créature. Et, par exemple, avec la sexualité, une autre chose qui se passe, c'est que... Alien a pu nous suivre depuis quatre décennies l'évolution des changements dans nos habitudes, nos visions de la sexualité humaine. Donc aujourd'hui, avec la transsexualité et tout ça, c'était dans l'œuvre de Giger dans les années 60 et il a transmis ça dans l'univers de Alien.
Finalement, on a l'impression que cette science-fiction-là, elle parle aux chercheurs, aux scientifiques que vous êtes, elle parle à ceux qui aiment l'art en général, elle nous parle à chacun d'entre nous. La science-fiction, c'est fait pour ça aussi, pour dire des choses qu'on ne pourrait pas dire autrement, pour être poser des questions à la fois aux chercheurs que vous êtes, puis aux humains que nous sommes tous, Frédéric.
La science-fiction, c'est un peu un laboratoire dans lequel on prend une hypothèse et on la teste à l'extrême, ce qu'on ne peut pas faire dans la vraie vie, parce que dans notre vie de chercheur, on est confronté à des aspects éthiques et évidemment, on va pas aller très très loin dans une expérimentation qui met en jeu des sujets humains, par exemple, alors qu'au cinéma ou en roman, on peut aller à fond. Et on peut, du coup, imaginer toutes les conséquences d'une nouvelle invention, d'une nouvelle technologie, d'un androïde qui est capable de tuer, ce qu'on a vu après avec plein de films qui ont exploité aussi le filon qui était dans Alien.
Un laboratoire, la science-fiction, Jean-Sébastien Steyer ?
Ah oui, tout à fait. Et puis un laboratoire dérangeant, dans le sens où nous, paléontologues, nous ne sommes pas capables de classer Alien dans l'arbre des espèces telles qu'on le connaît. Et du coup, Alien pose des questions intéressantes en termes d'exobiologie. Demain,
de vie extraterrestre, d'autres formes de vie
possibles. Est-ce que lorsque l'on découvrira peut-être la présence de vie extraterrestre, est-ce qu'on va devoir revoir nos copies en termes de classification des espèces ?
Est-ce qu'il faudra peut-être revoir Alien, ou en tout cas lire le chapitre que Roland Lehoucq, l'un de vos collègues astrophysiciens, a consacré à cette vie extraterrestre dans Alien ? Merci beaucoup à tous les trois d'être venus en direct. Je rappelle donc le titre de ce livre génial, hein, qu'on aime Alien ou pas, qu'on aime la science ou est la science-fiction, écrit à quatre mains, donc publié aux éditions La Ville Brûle, l'art et la science dans Alien, où nous avons encore un exemplaire à vous faire gagner, chers amis auditeurs, avis aux amateurs de science, de science-fiction, d'art, d'angoisse et d'effroi et d'émerveillement. Je vous signale aussi, à nos auditeurs, notamment qui sont à Dakar, au Sénégal, que demain au Grand Théâtre de Dakar a lieu la finale de ma thèse en 180 secondes qui va remporter ce concours scientifique de jeunes talents de tous les pays francophones. Alors il y a une lauréate sénégalaise, une béninoise, je cite les filles, les dunes de Madagascar, de Beyrouth ou de Tunis, auront-elles leur chance face aux thésards québécois, français, belges ou burkinabés ? Réponse ce jeudi soir dans le Grand Théâtre de Dakar et bien sûr sur l'antenne de RFI. Et puis lundi, autour de la question, reviendra sur ce formidable concours de thésards et thésardes francophones qui font passer leur thèse et leur science, où ils arrivent encore mieux que moi, en 3 minutes chrono.
Autour de la question sur internet, www.rfi.fr.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster à volonté sur l'appli RFI Pure Radio. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Spotify. Au plaisir de vous retrouver lundi, chers amis auditeurs, avec Nicolas Benita et Hugo Violas à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses. Merci de votre curiosité. Surtout, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, dans un peu plus d'une minute, ce sera l'heure des informations.